Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça, Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bienvenue dans Univox. Cette semaine, c'est Radio Campus Angers qui vous emmène avec elle. Alternatiba et Action Non-Violente COP21 ont été créés en 2013 et 2015 et sont deux mouvements citoyens qui fonctionnent en groupes locaux autonomes et qui luttent pour les enjeux climatiques et la justice sociale. Sophie Jallier, vous représentez aujourd'hui Alternatiba Nantes. Le but, réveiller les consciences sur les enjeux climatiques. Retour sur le mouvement citoyen. Au sommaire de cette émission, un point sur la situation climatique et sa place dans le débat public. Nous discuterons également du fonctionnement du mouvement Alternatiba. Et dans une deuxième partie d'émission, c'est la non-violence et la désobéissance civile qui nous intéresseront, avant de revenir sur le rassemblement du 28 novembre à Montbert contre Amazon. Bonne écoute.
Univox.
Bonjour Sophie, merci d'avoir répondu présente.
De rien, merci à vous.
On parle quand même d'un mouvement citoyen. Donc vous, Sophie, quand est-ce que vous avez rejoint Alternatiba ?
Alors, c'est difficile à dater parce qu'en fait, les mouvements de militants, j'allais dire, sont assez... Il y a une porosité des uns aux autres. Mais disons, j'ai pris connaissance dès la naissance du mouvement Alternatiba à Bayonne de ce qui se passait. Et je trouvais ça assez séduisant. Mais moi, j'étais sur un autre mouvement au départ qui s'appelait le collectif des désobéissants. Et bon, voilà, qui faisait un peu... pas tout à fait la même chose, mais disons qu'il faisait déjà des actions directes non violentes et des stages d'actions directes non violentes aussi pour apprendre aux militants à se former. Donc j'étais pas trop sur les alternatives comme propose Alternatiba, mais plutôt déjà sur l'action non violente, donc plus NG COP 21 sans savoir, puisque ce mouvement n'existait pas encore. Voilà.
Et quel a été votre déclic ? Est-ce que vous vous étiez toujours senti concerné par ces enjeux-là, ou bien c'est quelque chose qui s'est révélé plus tard ?
C'est petit à petit, on va dire. C'est quand même l'écologie qui est très importante. La question du réchauffement climatique perturbait quand même depuis déjà un bon moment. Donc c'est par ce biais-là. Et puis évidemment, il y a eu le catalyseur de la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, où là on découvre encore d'autres formes de militantisme, d'autres analyses politiques. Et du coup, la détermination plus grande à être sur le terrain de l'action et pas simplement de la pensée ou de l'écriture ou de la parole, ça s'est imposé.
Ça va être forcément une réponse non exhaustive, mais en quelques mots, comment est-ce qu'on pourrait définir la situation climatique actuelle ?
Elle est dramatique, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on a gagné, c'est la prise de conscience de la gravité des choses. Voilà, on ne parle quasiment plus des climato-sceptiques. Voilà, ça fait pas le poids aujourd'hui par rapport aux travaux du GIEC et qui sont encore renforcés. Par contre, au niveau de l'action, là, on est très très en retard. Nous, on attendait beaucoup en 2015 de la COP21. On s'est dit peut-être que là, il va y avoir des lois courageuses pour encadrer toutes les transformations à venir et qui sont nécessaires. Et en fait, ça ne s'est pas du tout produit. Donc déjà l'enjeu de rester à sous 1,5, c'était pas top, mais là clairement, comme rien n'a été fait de suffisant, bah, par exemple les Amis de la Terre ont fait des études qui montrent que les chances de rester sous 2 degrés d'augmentation sont inférieures à 5%. Et inversement, passer à plus de 4,5 degrés, les chances sont inférieures à 18%, supérieures à 18%. Voilà. Donc, on a beaucoup plus de chances, de risques plutôt que de chances, de subir des drames humains, climatiques, tout confondu.
On va évidemment approfondir tout ça, mais on va commencer tout doucement. On parle de changer les modes de production et de consommation. Dans ce cas-là, quel mode de production et de consommation serait préconisé ?
Déjà, la réduire. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de choses. Donc revenir sur les besoins plutôt que d'essayer de satisfaire des désirs de plus en plus superficiels, voire des désirs qui sont absolument artificiels. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des applications qui nous disent quand il faut nous remettre de la crème solaire sur le dos? Je suis pas sûre. Donc revenir aux besoins essentiels que tout le monde partage et relocaliser. Absolument relocaliser pour diminuer les transports, parce que les transports, c'est un domaine vraiment très qui implique énormément un domaine qui implique énormément le réchauffement climatique.
Et c'est souvent une question que l'on se pose, mais faut-il avoir de l'argent pour pouvoir effectuer ces changements individuellement et pour consommer autrement, par exemple? Car on a souvent l'impression que c'est quelque chose de réservé aux plus aisés. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est trop compliqué, parce que si on passe, par exemple, au niveau de l'alimentation par des AMAP, c'est pas plus cher, mais la liste d'attente est souvent longue. Maintenant, si on parle de consommer bio, ce qui ne veut pas dire consommer local, il faudrait mieux les deux, mais bon, personnellement, je privilégie le local, eh bien, on se rend compte que les grandes plateformes qui proposent du bio offrent des choses beaucoup plus chères, dans les villes notamment. Voilà. À Paris, consommer bio, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Maintenant, il y a moyen aussi de faire des économies en diminuant drastiquement la viande et les produits animaux qui sont les plus chers. Donc revenir aux légumineuses, ça coûte rien les légumineuses. Voilà, se mettre au végétarisme, ça permet de passer à une nourriture qui est moins impactante pour la planète et qui en même temps offre tout ce dont on a besoin.
Sur le site, on peut lire « Pour une société écologique, juste et démocratique ». Écologique et démocratique, on comprend très bien. Mais qu'est-ce qu'une société juste pour Alternatiba? Quelles sont les choses que vous y rattachez?
Bon, déjà, si on parle de justice climatique, ça voudrait dire qu'on ne peut pas séparer ceux qui polluent et qui impactent énormément la planète, et d'un autre côté, ceux qui en subissent les conséquences, qui vont peut-être quitter leur pays pour venir chez nous trouver un climat plus propice et à qui on va offrir simplement les centres de rétention. Donc ça, déjà, c'est une grande injustice. Et après, au sein même des villes, je dirais, il peut y avoir des injustices aussi criantes par rapport à ceux qui ont un toit et très important, et d'autres qui n'en ont pas, qui sont toujours à la rue malgré le travail des associations qui n'arrivent pas à endiguer ce problème. Donc on est un petit peu partout, quoi. C'est-à-dire Alternatiba, je pense en 2013, proposait des alternatives qui étaient techniques, faisait connaître les alternatives techniques, panneaux solaires, toilettes sèches, etc. Et c'est très bien, plus des initiatives d'une économie un peu différente. Donc ça peut passer par les monnaies locales, ça peut passer par l'économie sociale et solidaire, ça peut passer par plein de choses. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut aussi interpeller nos élus pour qu'ils se saisissent des injustices sociales et climatiques. Et ça passe à toutes les échelles, c'est-à-dire ça peut être de l'international au local.
On voit bien que des scientifiques tentent de sonner l'alarme mais ne sont pas écoutés. Comment essayez-vous, Alternatiba, de faire se pencher les gens sur la question?
Je vais passer plus par ANV COP21, c'est difficile parce que ce mouvement devient un petit peu la partie active et de désobéissance civile du mouvement Alternatiba. Hein, ils sont vraiment, c'est des mouvements presque jumeaux. Donc c'est plutôt par ce biais-là qu'on va essayer d'interpeller la population et les élus. Donc il y a une opération de décrochage des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies, qui paraissait très symbolique et un peu ridicule, et en fait qui a énormément été sanctionné. Là, nous suivons les procès, mais à chaque procès, nous en faisons une action nouvelle pour dire pourquoi nous avons fait ça, et que tant que le gouvernement d'Emmanuel Macron ne tient pas ses promesses, nous continuerons à alerter et à décrocher Emmanuel Macron des mairies.
Oui, parce que pour ce décrochage de portrait d'Emmanuel Macron, si je ne me trompe pas, il y a eu 3 personnes qui ont écopé de 500 euros d'amende, plus 2 des 3 personnes qui ont refusé de donner leur empreinte, et donc qui se retrouvent avec 300 euros d'amende en plus chacune. C'est la première fois en fait qu'on donne autant de sanctions pour ce genre de fait ?
Je pense que oui, effectivement. Parmi tous les procès qu'il y a eu, quand même, il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de relax hein, pour des motifs différents. Donc il y a des procès qui sont des victoires. Il y en a d'autres qui échouent, comme c'était le cas celui d'Anceny, mais les gens vont faire appel. Et effectivement, on a l'impression que la justice se retrouve un petit peu coincée et que laisser repartir des militants qui ont, entre guillemets, pour eux, volé un portrait, alors qu'on a bien dit qu'on le rendrait une fois que les choses rentreraient dans l'ordre, mais pour eux, c'est une sorte de vol. Ils ne peuvent pas nous laisser repartir sans rien.
Quelle place a le climat et l'environnement dans les débats publics en ce moment ? Parce qu'avec le contexte actuel, on a l'impression qu'on efface presque ce poids-là, alors qu'on avait atteint une mobilisation assez importante avec de plus en plus de marches pour le climat, organisées même par des lycéens, des lycéennes. Quelle place aujourd'hui pour parler du climat ?
Elle est partout et elle n'est pas dans un créneau à part. C'est-à-dire que ça fait déjà plus d'un an qu'on parle depuis les Gilets jaunes, en fait. Donc ça fait plus d'un an qu'on essaie de rassembler justice sociale et climatique. Et toutes les actions qui sont menées montrent un petit peu la solidarité de ces deux thématiques. Donc elle est partout. Là, on va parler bientôt de l'action Amazon, mais on voit bien que les deux thématiques sont liées, c'est-à-dire que c'est à la fois l'emploi et c'est l'impact pour la planète, quoi. C'est la pollution et c'est encore une fois le réchauffement climatique. Tout est lié.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a peut-être des âges qui viennent en plus grand nombre ? Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà informées et qui connaissent déjà un petit peu le fonctionnement de tout ça, ou des personnes qui viennent apprendre, tout découvrir ?
Alors, je dirais que les premières années de stage en 2016, on avait deux types de personnes. C'était plutôt des jeunes, étudiants, voire lycéens. Et puis, à l'autre bout, des retraités qui étaient militants engagés depuis longtemps, mais qui s'intéressaient à cette nouvelle forme de militantisme. Voilà. Et puis évidemment, au milieu, c'était plus compliqué parce que les gens travaillent et ils sont occupés, ils ont besoin de leur week-end aussi pour s'occuper de leur progéniture, etc. Et puis aujourd'hui, ça s'efface un petit peu. On a un peu tous les âges, on a des jeunes parents qui viennent, on a des lycéens de plus en plus jeunes, donc on est obligé de demander quand même une autorisation des parents. Il y a un petit peu de tout. Des gens qui connaissent pas tellement... qui sont assez politisés quand même, hein. Ils ont beaucoup lu, ils ont des connaissances, etc. Par contre, qui ne connaissent pas tellement l'action non-violente, ou bien d'autres qui nous ont vus et qui se sont dit « mais c'est trop chouette, j'aimerais faire ça voilà. ». Et puis, ils découvrent et certains mordent à l'hameçon et organisent aussi des actions après ou montent un autre collectif et font ça très bien.
Avant de poursuivre cette émission et de parler de désobéissance civile, petite pause, vous écoutez Univox et tout de suite Écolo Asico des Frères Smith, remixé par Izem.
Les peuples ont pris son loyer dans un panier à craquer. Et ça pique.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
De retour dans Univox, on reprend la discussion avec Sophie Jallier, cette fois autour de la non-violence d'Alternatiba. Vous, vous revendiquez des actions non-violentes, c'est une vraie revendication.
Ah oui, absolument.
Et dans les critères de non-violence, il y a la participation obligatoire aux actions à visage découvert. Pourquoi ?
Alors, oui, à part le masque.
Oui, aujourd'hui, à part le masque.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne peut pas s'identifier à quelqu'un sur une photo qui est masquée. Et même, il peut renvoyer au grand public quelque chose de terrifiant, de souterrain, de pas assumer. Donc nous, on assume, on est à visage découvert. Et du reste, c'est dans la logique de la désobéissance civile. On n'est pas là pour faire des cours en douce, on est fiers de ce qu'on fait, on est contents. On essaie de lutter contre le désordre établi et de remettre un peu d'ordre là-dedans. Donc, mais de l'ordre juste pour pas copier une femme politique. Voilà, quelque chose qui est légitime, qui est bon. Donc, on n'a aucune raison de se cacher, au contraire. C'est aux autres, c'est à Jeff Bezos de se cacher.
Alternatiba veut sortir du système néolibéral, capitaliste, productiviste et de la logique de surconsommation. Est-ce que des actions non-violentes, justement, et pacifistes suffisent à changer ce système, qui lui-même est violent ?
Alors déjà, moi j'enlèverais le mot pacifiste qui peut évoquer le fait que on regarde passer les choses et que simplement on se dit « oh là là, c'est pas bien, on n'est pas content ». Donc l'action non-violente, c'est bien une action, c'est bien une lutte. Et j'ai peut-être oublié la question en marge, mais vous me la reposerez. Et la non-violence n'est pas simplement le fait de ne pas être violent, de ne pas porter de coups, de ne pas faire de dégradation, etc. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment la lutte contre toute forme de violence, y compris la nôtre. Ces mouvements-là sont très peu connus en France, mais ils ont beaucoup, beaucoup d'influence dans le monde. Et il y a de vraies stratégies, non seulement dans les rapports interpersonnels, mais aussi dans les rapports politiques. Comment faire en sorte que chacun soit écouté, entendu, et qu'on puisse dialoguer. Comment faire en sorte, en fait, de simplement, par une action désobéissance civile, montrer qu'on n'est pas d'accord, enclencher un rapport de force, mais pour revenir ensuite au dialogue autour d'une table pour dire « bon, maintenant, discutons, parce que sinon, ben, on va continuer à vous embêter, ça c'est sûr. Voilà. » Mais c'est juste ça.
Et donc la question, c'était est-ce que ces actions non-violentes que vous venez de définir vont suffire ou suffisent à, entre guillemets, suffisent à changer ce système justement néolibéral, capitaliste et productiviste que vous essayez de... duquel vous essayez de sortir ?
Ces actions seules, non, probablement pas. Mais rien ne sert à rien, en fait, dans le militantisme si on isole les actions les unes des autres. Donc, il y en a qui sont plus à même de passer par le juridique. Il y en a qui sont plus à même de faire avancer les choses en se présentant aux élections et en devenant des élus locaux ou régionaux, etc. etc. Eh bien, grand bien leur fasse et grand bien nous fasse s'ils portent les mêmes idées. Simplement, c'est une composante qui peut être essentiel à un moment donné. Et quand les choses vont très vite et qu'on n'a pas pu les empêcher par une autre façon, quand on a essayé le dialogue et qu'il a échoué, là, une non-violence dans l'action directe devient nécessaire.
Le GIGNV est lié à Alternatiba et s'est créé en 2016 suite à une action justement qui dénonçait l'évasion fiscale, la fameuse opération fauchage de chaises à Nantes. Et en plus de revendiquer la non-violence, il propose de s'y former ainsi qu'à la désobéissance civile. Comment est-ce qu'on forme à la non-violence ?
Alors, il y a différentes stages qui sont proposées par les formateurs. Moi qui vous parle, j'ai un petit peu hérité de la formule des désobéissants, donc je leur dois ça, même qu'il a été beaucoup revu, corrigé, enrichi. Et du coup, on invite les gens à nous rejoindre pendant 2 jours. La première journée, elle est consacrée à ceux qui veulent participer à une action non-violente, et la seconde, plutôt à ceux qui se sentent prêts à en organiser une. Donc, y a plein de choses au programme. Il y a déjà se fixer soi sur ce qu'on entend par non-violence et ce à quoi on est prêt ou pas prêt. parce que c'est un engagement personnel, donc il faut respecter un petit peu toutes ces formes-là. On apprend aux gens quelques techniques de base, faire le poids mort, apprendre la tortue, qui permet de bloquer un peu plus longtemps en s'accrochant les uns aux autres. On fait connaître aux gens leurs droits. Pourquoi ça dure 2 jours aussi? Parce qu'on fait des jeux de rôle et qu'on met les gens en situation.
Et qu'est-ce qu'on entend par désobéissance civile, car ça peut paraître oxymorique? Qu'est-ce qu'on peut y placer et quel est le curseur qui la sépare de la violence à proprement parler, au sens propre?
Alors, pour moi, il n'y a pas de curseur. C'est autre chose que la violence. C'est sur une autre échelle que violence et absence de violence. Voilà. C'est vraiment un mode d'action qui consiste à établir un rapport de force avec des personnes qui peuvent nuire beaucoup, soit aux humains, soit à la planète. Et du coup, établir ce rapport de force, c'est à un moment franchir la loi. Donc la désobéissance, elle est par rapport à la loi. Donc il ne s'agit pas de désobéir pour désobéir, mais bien à un moment de faire quelque chose qui peut être réprimé pour alerter. S'il n'y a pas de communication large autour d'une action non violente, elle ne vaut pas grand-chose. Donc la partie communication, médiatisation de ce qu'on fait est très très importante. Et puis, il faut l'incarner, la porter et dire voilà pourquoi nous nous opposons à ça.
On va revenir sur la mobilisation du 28 novembre à Montbert pour stopper Amazon. Le rendez-vous était donné à 14h, rond-point du Buguet. 3000 personnes ont répondu à l'appel. Le but, faire abandonner le projet de construction d'un entrepôt Amazon. Benjamin, porte-parole d'Alternatiba, a déclaré ceci: ne vous rendez pas complice de l'aggravation du dérèglement climatique, des destructions d'emplois supplémentaires et de l'augmentation de la pollution de l'air sur la métropole. En quoi la construction d'un entrepôt Amazon ainsi que le fonctionnement de l'entreprise joue sur l'environnement?
Parce qu'il y a des camions qui viennent livrer, rechercher, etc. etc. Et des camions, c'est des milliers par jour. Donc ça veut dire beaucoup d'essence, beaucoup de pollution, de CO2, en plus de la pollution visuelle que représente cet entrepôt, et en plus aussi du fait que ces terres pourraient être cultivées.
On pourrait penser que la construction d'un tel projet serait justement source de création de nouveaux emplois. C'est d'ailleurs un des arguments avancés par les élus locaux. Or, dans cette déclaration, on parle de destruction d'emplois. Pourquoi ?
Oui, parce que pour les études qui montrent, les études, parce qu'aujourd'hui il y en a plusieurs, et il y en a une qui va pas tarder à sortir d'ailleurs, montrent que pour un emploi créé par Amazon, il y en a 3,5, 4, 4,5 qui sont détruits localement ou pas. Voilà. Donc peut-être que ça n'aura pas d'incidence sur les commerces alimentaires, mais au niveau de l'habillement et de tous les autres produits, ça va détruire des emplois locaux. Et après, ça va détruire des emplois aussi ailleurs. Voilà, c'est ça qui est comptabilisé. On milite aussi sur le fait que les emplois qui sont créés ne valent pas les emplois qui sont détruits. C'est-à-dire que ce sont les emplois d'Amazon sont des emplois précaires. Des contrats qui sont dénoncés, des conditions de travail qui sont épouvantables, avec peu de pauses, avec des employés qui sont surveillés. Par exemple, c'est tout simple, les toilettes sont à 10 minutes de leur lieu de travail et ils ont 20 minutes de pause. Donc, autrement dit, vous allez aux toilettes, vous revenez, votre pause est terminée. Quoi. Voilà, donc, c'est plein de petites choses comme ça. Le diable se cache dans les détails. Et bon, ce n'est pas des emplois qui sont bien payés, il n'y a pas de possibilité de monter en compétences. Enfin, bon,
Il est noté à la fin du communiqué que le collectif Stop Amazon 44 se déclarait ouvert à la discussion avec la mairie de Montbert et donc son maire Jean-Jacques Miraillé. Y a-t-il eu une discussion justement?
C'est probablement en cours, en tout cas il y a eu une invitation à discuter. Bon, ce serait bien que le maire ne signe pas, mais il a déjà signé pour ce projet, donc est-ce qu'il peut retirer sa signature? Ça n'est pas sûr. Et après, c'est aussi au niveau de la communauté de communes que la décision se joue. Donc on attend qu'ils mettent en place vraiment
En 2021, il y aura la consultation publique.
C'est ça, je cherche.
Oui, justement, pour fournir aussi au collectif davantage d'informations, parce que pour l'instant, il y a quand même eu le refus de la part de la mairie et de la communauté de communes de transmettre, par exemple, rien que le permis de construire.
Oui, alors eux, ils ne transmettent pas les documents. Le président de la communauté de communes dit qu'en fait, c'est la façon de faire habituelle et que tant que les choses ne sont pas suffisamment avancées, bon voilà, ça se passe comme ça, un petit peu dans le secret. S'il y a une consultation, les travaux quand même d'installation commencent ou on prépare le terrain. Quoi.
On peut inviter justement les gens qui nous écoutent à aller faire un tour sur votre site Alternative à Nantes et sinon, si vous êtes ailleurs en France, à aller tout simplement sur Alternativa. Et je pense qu'on peut terminer avec cette phrase: changeons le système et pas le climat, si vous êtes d'accord.
Voilà, c'est exactement ça, changeons le système, mais vite vite vite, parce que ça chauffe.
Univox.
C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel Univox.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.